Bon, eh bien écoutez, si personne ne souhaite prendre la parole, j'ai le grand plaisir de présenter aujourd'hui Mathias Dreyfus, qui est auteur d'une belle thèse de l'école des hautes études. Il est rattaché au centre de recherche historique au sein du groupe d'études juives. Sa thèse est récente, elle a été soutenue en 2017 et elle a obtenu le prix de la Société des études romantiques, le prix Harry Schaeffer. Deux mots peut-être pour rappeler ça sur son parcours intellectuel. Vous avez enseigné l'histoire et la géographie pendant plusieurs années dans l'Académie de Créteil et vous êtes actuellement, après être passé par le musée d'art et d'histoire du judaïsme, vous êtes actuellement, et c'est votre fonction, chef du département des ressources pédagogiques du Musée national de l'histoire de l'immigration. Vous savez, ce très beau musée qui se trouve au palais de la Porte Dorée. Voilà, merci d'avoir accepté de prendre la parole pour ce dernier séminaire.
Je dois me rapprocher du micro ou comment non, ça fonctionne comme ça. Merci beaucoup Alain Pagès de cette invitation. Je dois vous dire tout de suite mon intimidation de devoir parler devant des littéraires, hein, puisque moi-même, étant historien, c'est un exercice aussi, un exercice de style. Donc voilà, je vais essayer de me plier. Donc tout d'abord, pour vous remercier Alain, et puis aussi de cette invitation qui, d'une certaine manière, pour moi, sonne comme un retour aux sources à plusieurs titres. Ce que je vais dire peut-être en guise d'introduction. Retour aux sources d'abord parce que, avec un nom comme le mien, vous vous doutez qu'il m'était difficile d'échapper au chaudron de l'affaire Dreyfus, hein, dans laquelle je suis tombé tout petit. Le fameux « Que sais-je » de Pierre Miquel sur l'affaire Dreyfus, qui tirait de la bibliothèque paternelle, constituant vraisemblablement une des toutes premières lectures historiques un peu sérieuses que j'avais dû faire étant encore jeune adolescent. Retour aux sources ensuite, car comme Alain Pagès le sait bien, j'ai très tôt appris à distinguer François de Henri, l'un qui était président de la République et l'autre président des sociétés, de la Société des Amis d'Émile Zola, donc Henri Mitran, vous l'aurez reconnu, et également patron de mon père aux éditions Fernand Nathan. Circonstance qui m'a permis très tôt, là encore, de faire le pèlerinage de Médan et d'être initié au Rougon-Macquart comme lecture imposée, là encore, dès la plus tendre adolescence. Retour aux sources encore, toujours, puisque c'est aussi à la faveur de l'affaire Dreyfus que j'ai initié ma collaboration professionnelle, Alain l'a souligné, avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, donc à Paris, institution dans laquelle j'ai œuvré pendant un peu plus de 10 ans, avant de partir donc, pour le MNHI récemment. Et c'est en effet à l'occasion de la grande exposition qui s'était tenue en 2006, à l'occasion du centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus, donc que donc cette exposition intitulée « Alfred Dreyfus, le combat pour la justice » que j'avais fait mes premières armes, alors que j'étais encore enseignant, au service éducatif de ce musée. Et d'une certaine manière, tenter de réhabiliter la figure du capitaine au sein de l'affaire portant son nom, mais aussi comprendre les liens profonds, mais complexes, qui sont entre l'affaire et l'histoire des Juifs en France, tels étaient les enjeux de cette exposition de 2006, je tenterai de l'exposer ici, constituait une porte d'entrée éminemment paradoxale et ambivalente dans l'histoire des Juifs de France au XIXe siècle. Porte d'entrée, ou parfois même, on pourrait dire, porte de sortie, la question n'est, à mon sens, pas encore tout à fait réglée. Retour aux sources enfin, et surtout, puisque c'est à une promenade à travers les archives et leur constitution en tant que source de l'histoire des Juifs en France, avant, pendant et après l'affaire Dreyfus, que je vous invite pendant la petite heure qui m'a été impartie pour cet exposé. Retour aux sources donc, et pourtant, comme je viens de le formuler, l'affaire Dreyfus m'a posé problème, sans aller jusqu'à reprendre le qualificatif peu élégant dont l'avait affublé le poète Jean Rictus, exhumé il y a peu par son exégète Philippe Auriol. Problème parce que l'affaire possède sa propre historiographie, qui est complexe, luxuriante, sinueuse, polémique, friante de renversements de perspectives en toutes sortes, hein. Une historiographie qui est en grande partie distincte, séparée de l'historiographie relative aux Juifs en France. Celle-ci, donc l'historiographie des Juifs en France, depuis les années 1970, considère l'affaire Dreyfus encore souvent selon une grille de lecture qui reste très binaire. Les uns, héritiers du franco-judaïsme, une notion que j'expliciterai un peu plus tard, il célèbre dans l'affaire l'engagement des intellectuels, juifs et surtout non-juifs, et le combat victorieux pour la justice dans la France de la Troisième République, qui est la France qui a émancipé les juifs un siècle plus tôt, lors de la Révolution française. Les autres historiens, les plus nombreux, parmi lesquels on trouve beaucoup d'historiens américains, il pointe au contraire le début de la pente glissante, annonciatrice des tragédies du XXe siècle, comme sur un autre plan, du sionisme politique à travers les figures de celui qui alors était le correspondant étranger de la Neue Freie Presse, donc présent à Paris début 1995, j'ai nommé Théodore Herzl. L'affaire Dreyfus, donc, je vous disais, possède sa propre historiographie, distincte de celle des Juifs en France. À cela, il y a un indice qui n'est pas un indice historiographique proprement dit, mais un indice bibliographique, qui est ce que je vous présente ici, à savoir, ça va vous donner déjà un indice sur ma méthode de travail, d'une certaine manière, le fait que les ouvrages relatifs à l'affaire, qui sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale, ont été classés, sans exception, dans une cote, qui est la cote LB57, hein, vous la voyez en bas voilà, des pages de titre de ces ouvrages, qui est une cote qui renvoie dans le système de classe, dans le cadre de classement des ouvrages de la Bibliothèque nationale, alors qui était effectif jusqu'en 1994, maintenant c'est un autre système de classement, mais jusqu'en 1994, à l'intérieur de la cote L, qui était la cote Histoire de France, il y avait une série de subdivisions, et la cote LB est la cote relative à l'histoire politique, par régime, hein, par, donc vous voyez par exemple ici, LB56 qui était le Second Empire, donc LB57 tout simplement la Troisième République. Donc c'est une cote qui définissait le cadre de classement et donc cette affaire Dreyfus prenait place dans cette histoire politique de la France. Alors que l'histoire des Juifs en France, elle bénéficie d'une cote, enfin de plusieurs cotes, mais de deux cotes principales. On les voit ici un peu, voilà, on ne les voit pas très bien, mais c'est les cotes LD183-184. Ce qui veut dire que d'un point de vue de la bibliographie nationale, cette distinction est très marquée. Hein. On a effectivement des histoires qui sont des histoires séparées. Du point de vue historiographique, cette fois-ci, et plus particulièrement du point de vue qui va nous occuper, à savoir la question des archives et des archivistes et des historiens, même distinction, d'une certaine manière, permettant de mettre en valeur le caractère exemplaire. Hein, c'est des travaux que vous connaissez certainement. Maintenant, qui remonte à une quarantaine d'années, hein, le caractère exemplaire de l'engagement de ces derniers, des archivistes, des historiens, dans l'affaire Dreyfus. Ainsi, incidemment, que le rôle de l'expertise historienne dans les tribunaux que l'affaire, et plus précisément le procès Zola et ses suites, hein, du printemps 1998, permettent de faire émerger. Donc il est inutile, je pense, ici de rappeler dans le détail les travaux pionniers de Madeleine Reberiou sur l'histoire des historiens et le dreyfusisme, hein, et notamment son article pionnier paru dans la Revue historique en 1976, hein, donc il y a plus de 40 ans, jusqu'à ceux de Bertrand Joly sur l'attitude de l'école des Chartes pendant l'affaire. Hein, là aussi, c'est des travaux qui maintenant commencent à dater un petit peu, puisqu'ils datent de la fin des années 80, et plus récemment, les travaux de Vincent Duclerc, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Avant cela, je rappellerai la belle formule de l'historien François Hartog, parlant dans son bel ouvrage d'historiographie intitulé « Évidence de l'histoire », qui était paru en 2005, donc la formule de Hartog parlant de la matrice dreyfusarde du rôle de l'historien, qui remet vraiment au cœur du travail de l'historien le moment de l'affaire Dreyfus. Hartog, donc ici, qui parle du rôle, et non pas du métier de l'historien, distinction sur laquelle je reviendrai, qui me semble finalement assez importante. Quant à Vincent Duclerc, mentionné il y a quelques instants, on peut rappeler plus spécifiquement ses recherches qui avaient été menées dans les années 90, donc avant qu'il recentre ses travaux sur la biographie d'Alfred Dreyfus. Vincent Duclerc avait produit donc un certain nombre de travaux, d'articles, qui touchaient très directement à l'histoire des archives judiciaires de l'affaire. En effet, l'histoire labyrinthique des archives judiciaires de l'affaire Dreyfus, aujourd'hui conservée aux Archives nationales, dans la sous-série BB19, cette histoire plonge dans les arcanes de la lente et difficile construction en France d'un droit des archives, s'accordant au principe démocratique qui avait été énoncé dès la Révolution française. Ceci, par la loi fondatrice du 7 Messidor an 2, visait à faire de l'accès de tous les citoyens un droit fondamental, l'accès de tous les citoyens aux archives, donc un droit fondamental en rupture avec les pratiques du secret des archives qui était pratique propre de l'Ancien Régime. Plus d'un siècle plus tard, l'émergence concrète de cette exigence démocratique va coïncider presque parfaitement avec la chronologie de l'affaire, puisque si le 13 janvier 1998 est une date sinon absolument universellement, disons très largement connue du grand public, hein, c'est la date du J'accuse, celle du 12 janvier 1998, donc la veille, et le lendemain de l'acquittement d'Esterhazy, celle-ci l'est beaucoup moins. Or, cette date est la date donc, de la promulgation d'un décret que je vous ai... Alors attendez, oui, pardon, ça c'est autre chose. Peut-être que je reviendrai à la fin, mais voici le décret du 12 janvier 1998, donc, qui est le premier, obligeant au versement par les ministères et les administrations aux archives nationales et départementales de leurs papiers considérés, vous voyez, premier titre, enfin premier article, donc les dossiers considérés comme inutiles pour le service. C'est également ce même décret qui met en place un délai de communicabilité. Donc c'est l'article 5, hein, de 50 ans pour ces papiers relevant des ministères, délai qui par la suite a été revu et modifié. Malgré cette étonnante concordance des temps, entre le temps de l'affaire et celui de la mise en place d'une législation relative aux archives, Vincent Duclerc donc, refuse de voir un lien direct de cause à effet, et on peut l'estimer suffisamment connaisseur à la fois de l'affaire Dreyfus et de la politique française des archives pour abonder dans son sens. Lien non pas direct, mais néanmoins non pas inexistant. Son impact sur les usages historiographiques n'en fut pas moins très concret, puisque ce délai de communicabilité de 50 ans des archives administratives versées aux archives nationales est précisément le délai qui a fallu à Marcel Thomas pour entamer ses recherches aboutissant à un ouvrage fondamental que vous connaissez certainement, l'affaire Sandreyfus, paru en 1961, ouvrage adossé à l'étude méticuleuse donc de cette sous-série BB19 donc des archives nationales qui en fait sont les archives émanant en fait de la Cour de cassation et du ministère de la Justice qui avaient été déposées dans l'entre-deux-guerres aux archives nationales. Difficulté donc, disais-je, de cerner cette histoire propre des archives de l'affaire Dreyfus du point de vue qui a été le mien et qu'il est maintenant temps d'exposer. Alors, je me suis en effet efforcé durant les années de thèse donc à comprendre la manière dont l'histoire des Juifs en France avait été concrètement écrite tout au long du XIXe siècle. Pour retracer ce long et sinueux cheminement, j'ai pris le parti de repartir, justement, non pas comme cela a déjà et souvent bien été fait, des trajectoires intellectuelles et politiques des savants qui avaient œuvré à faire reconnaître en Allemagne puis en France cette histoire des Juifs et du judaïsme comme un champ digne d'être étudié à l'université. Mais j'ai pris le parti de repartir, je suis désolé cette répétition, donc, des documents eux-mêmes et de leur circulation à travers les collections des archives, des documents relatifs aux Juifs hein, pouvant être considérés comme source de l'histoire. L'intérêt d'une telle approche, inspirée de ce que depuis une vingtaine d'années on nomme le tournant archivistique, est de permettre de recontextualiser et de remettre en perspective la notion même de source disponible. Source disponible que l'on retrouve très fréquemment dans les travaux d'historiens, notamment dans les thèses, hein, c'est le moment où on expose les sources disponibles sur lesquelles on a bâti ses propres travaux. Donc source disponible qu'il ne faut pas voir comme le simple effet du passage du temps et de la cohorte des destructions volontaires ou involontaires qui l'accompagnent, mais aussi, c'était l'enjeu de ce travail, de montrer que ces sources disponibles sont aussi le fruit d'un travail continué de conservation à des fins stratégiques de documents à valeur d'abord juridique, les archives, qui, dans un certain contexte, sont amenés à devenir des sources historiques, des sources pour l'histoire. Ce changement de perspective permet ainsi de saisir au plus proche le processus, qui est un processus tout à la fois juridique, historique et discursif, de construction d'objets matériels. Par objets matériels, j'entends ici des manuscrits, des livres, des archives, hein, donc saisis dans leur matérialité, mais aussi des inscriptions funéraires, et plus largement tous les supports de l'écrit en source pour l'histoire. Cette construction de documents en source pour l'histoire implique une série d'opérations de construction de catégories, de deux ordres principalement. Construction juridique, je l'ai dit, qui est celle de ce qu'on appelle la mise en archive, opération qui consiste à affecter à chaque document des coordonnées dans des séries, des fonds, des lieux, autant d'éléments qui sont ensuite indissociables du document. Construction discursive, qui est celle de la mise en récit historique des sources, se manifestant parce que on pourrait qualifier une écriture de l'archive, alors plutôt une réécriture qui peut être une réécriture littéraire ou historique ou historienne de l'archive, et aussi par la mise en œuvre de tout un paratexte, en serrant le récit de l'historien dans un système présentant explicitement les traces des preuves de l'authenticité de son discours. Paratex qui renvoie lui-même, directement ou indirectement, à toute une littérature grise des archives et des bibliothèques faites d'index, de répertoires, d'éditions de sources, etc. Tout un ensemble, cette littérature donc citée avec plus ou moins de rigueur dans les notes de bas de page qui sont, comme vous l'avez bien compris, qui ont été le miel un petit peu de mon travail. Hein, sans quoi mon travail n'aurait pas été possible. Ces notes de bas de page, là je fais référence au très beau livre que si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à lire parce que ça a été une révélation pour moi, d'Anthony Grafton, de 1998, sur les origines tragiques de l'érudition, qui faisait une histoire des notes de bas de page tout à fait passionnante. Dans ce contexte, on comprend mieux le hiatus entre mon terrain d'investigation, qui embrasse tout le 19e siècle, hein, jusqu'aux années 1930, donc incluant l'affaire, et l'affaire proprement dite, qui surprend la petite communauté des historiens effectuant des recherches en archives et en bibliothèque sur le passé des Juifs en France, alors que cette petite communauté d'historiens a à peine plus de 20 ans. Ça fait à peine plus de 20 ans qu'elle commence à produire des travaux rigoureux d'un point de vue scientifique sur cette histoire des Juifs en France. 20 ans, c'est peu, mais c'est peut-être déjà suffisant pour voir se produire un phénomène assez inédit, à savoir la prise de plume de publicistes et d'hommes politiques se muant à la faveur de l'affaire en historien des Juifs, ou plus exactement en historien de l'antisémitisme. Je pense ici évidemment à l'auteur qu'a déjà cité à la Pagès, Bernard Lazare, évidemment, et à son histoire de l'antisémitisme, parue juste avant l'affaire, en 1894, hein, et le premier, comme Jean-Denis Bredin l'avait bien noté, à donner à l'affaire sa dimension juive, hein, Bernard Lazare, et aussi, évidemment, à l'autre grande figure, Joseph Reynac. Joseph Reynac, on le sait, qui a réuni une très vaste documentation en vue de sa monumentale histoire de l'affaire Dreyfus, hein, publiée alors que l'affaire n'était officiellement toujours pas close, hein, tout début du XXe siècle. Histoire de l'affaire Dreyfus par Reynac, qui n'est d'ailleurs que la pointe émergée de l'iceberg des publications dues aux maisons d'édition Dreyfusard, stock en tête, mais aussi anti-Dreyfusard, livrant documents inédits sur l'affaire par foison, puisés dans les nombreuses plaidoiries, rapports, enquêtes judiciaires, journalistiques, témoignages, etc., publiés tout au long de l'affaire. Et je ferai juste un sort à l'ouvrage dont ici vous avez quelques pages. C'est tiré donc de cet ouvrage qui est le précis de l'affaire Dreyfus, publié en 1909 par Ducroix Crozon, qui est en fait un pseudonyme derrière lequel se cachent deux auteurs proches de l'Action française. Donc c'est un ouvrage anti-Dreyfusard, mais que Bertrand Joly indiquait comme étant un anti-mémoire très utile donc, de l'affaire, à condition d'en inverser tous les signes. Puisqu'effectivement, il a un appareil critique tout à fait extraordinaire, et notamment aussi des biographies des acteurs, des protagonistes de l'affaire, qui le rendent d'une certaine manière utile. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise ces dernières semaines en allant à la Bibliothèque nationale de France, de voir que, vous voyez, il y avait eu des lacérations constatées le 27 août 1942 par à l'époque une jeune chartiste, Thérèse Kleindienst, mais qui fera une très belle carrière à la Bibliothèque nationale, donc de cet ouvrage, des premières pages de cet ouvrage, qui nous montre, là encore, hein, s'il en était besoin, les effets de l'affaire quelques années plus tard, et dans un contexte, vous l'avez compris, 42-44, hein, tout à fait particulier. Donc, une histoire, donc, comme je vous disais, donc, de l'affaire Dreyfus, qui se fait de façon quasi contemporaine, un premier archivage des pièces de l'affaire, on est à toute fin du 19e siècle, archivage qui se fait à ce moment-là, donc à toute fin du XIXe siècle, sous le régime du secret, voire de la manipulation à des fins judiciaires et politiques, hein, des pièces de l'affaire. Et ici, on peut faire référence notamment à une série, alors un ensemble qui se trouve aujourd'hui aux Archives nationales, hein, dans le fonds BB19 déjà cité, ces pièces saisies au domicile de Dreyfus le 15 octobre 1994, donc juste après son arrestation. Alors, et justement, c'est cette impossibilité d'accéder à de telles archives donc de l'affaire Dreyfus qui a fait écrire à Joseph Reynac en 1905 un propos que je vous ai retranscrit parce qu'il me semble tout à fait intéressant pour voir justement comment lui, Joseph Reynac, historien de l'affaire, hein, vraiment contemporain de l'affaire et historien, eh bien, comment il démarque son travail de ce qu'il considère être le travail d'un véritable historien, sous-entendu travaillant aux archives. Donc, cette citation un peu longue, mais qui me semble tout à fait intéressante, donc je vous la lis. Hein. « Les vérités historiques, comme les vérités scientifiques, ne se révèlent pas d'un seul coup. On cherche longtemps, on s'égare plus d'une fois, avant d'y atteindre, même en partant d'une idée juste, d'une conception exacte, que l'événement ou le critérium expérimental confirmera. C'est le cas, souvent, de l'historien des âges écoulés, qui travaille loin des passions troublantes, dans la sérénité des archives, sur les matériaux innombrables que le temps a amassés, classés, passés déjà au crible de la critique. Combien se multiplient les difficultés pour l'historien d'une époque contemporaine, qui travaille au milieu des fumées du combat, dans une atmosphère enfiévrée, n'ayant à sa disposition que de rares matériaux informes, des renseignements d'un contrôle inaccessible, des documents incertains, condamnés à suppléer à la science par l'intuition, à interpréter les phénomènes avant d'en avoir une connaissance exacte, exclus des lieux mêmes où la vérité est gardée par des hommes qui croient de leur intérêt, peut-être de leur devoir, de ne pas la laisser approcher par les profanes. » C'est une belle citation qui nous montre bien comment lui, publiciste, homme politique, son travail d'historien n'est pas le travail de ce qu'il considérait être le véritable historien, donc avec cette formule tout à fait saisissante de la sérénité des archives. Alors, pour tenter d'approcher, donc, d'apporter quelques éléments de réflexion, il me semble que l'on peut reprendre justement la question d'un peu plus loin, ou peut-être d'un peu plus haut, en réinterrogeant le statut des documents d'archives dans la profession historienne, qui avait entamé sa mutation dans deux décennies ayant précédé l'affaire, mais aussi le travail plus discret des archivistes, justement à distance de l'image de la sérénité des archives et du patient travail du temps que Reynac propose dans l'extrait que je viens de citer. Profession historienne, ici j'entends à la fois les historiens travaillant sur l'histoire de France, sur l'histoire nationale qui est l'objet de toutes les réécritures depuis l'époque romantique, hein, depuis Guizot et Michelet, mais aussi, et peut-être encore plus, l'histoire des Juifs en France, qui, elle, n'émerge timidement comme domaine de savoir autonome que bien plus tard, à partir des années 1970-1980, et dont l'organe de promotion et de diffusion sera longtemps la Revue des études juives fondée à Paris en 1880. Cette remise en perspective que je vous propose autour du métier et de la pratique de l'historien, historien des Juifs versus historien de la France, permet d'identifier d'autres lignes de fracture, il me semble, que celles qui, jusqu'ici, ont été clairement identifiées à travers l'historiographie de l'affaire Dreyfus que je vous ai évoquée précédemment. Comme l'avait judicieusement rappelé Madeleine Reberiou, encore elle, l'affaire est, comme je la cite, un coin venant se ficher entre les valeurs de la méthode historique et la fonction nationale exercée par l'histoire. Fonction nationale exercée par l'histoire, il me semble que l'on peut même aller un peu plus loin pour parler de fonction nationale exercée par l'archive. C'est ce que Pierre Nora, après d'autres, a pu souligner récemment en parlant d'un patriotisme de l'archive à propos de Gabriel Monod, le grand historien protestant qui à la tête de l'école méthodique. Hein, donc patriotisme de l'archive qui est celui aussi, évidemment, de la profession historienne qui conquiert la Sorbonne donc à partir des années 80 et qui va faire de ce patriotisme de l'archive sa marque de fabrique, d'une certaine manière, pour s'imposer sur les rangs de l'université. Ce patriotisme de l'archive pointe le fait que les historiens engagés du côté de la République, qu'on retrouvera quelques années plus tard aux côtés de Dreyfus et de Zola, ces mêmes historiens, je pense évidemment à Monod et à d'autres, hein, ont pu ériger les sources archivistiques et littéraires de l'ancienne France, hein, donc celles du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, qui sont précisément pas celles qui sont concernées par les réformes donc de 1897-1898 hein, que je vous ai évoquées, non seulement en source incontournable de l'histoire nationale, interdisant aux historiens de se contenter de travaux de seconde main, mais également et peut-être surtout en patrimoine national, permettant de sonder en profondeur et objectivement les diverses facettes de la vie sociale des Français d'autrefois, dans une démarche qu'on pourrait qualifier, avec un léger anachronisme, d'histoire sociale, voire d'histoire des mentalités, telle qu'on la voit aussi émerger à la toute fin du XIXe siècle. Or, c'est précisément dans la manière dont les archives et les sources narratives sont convoquées par les uns et par les autres, comme preuve objective de l'histoire des Juifs en France, que se joue une autre partie de l'affaire, confrontant les points de vue des tenants de l'histoire méthodique et des historiens des Juifs de France, convertis récemment à l'étude des documents d'archives. Cette partie se joue en trois temps. Un premier temps, dans la décennie qui précède l'affaire, à l'heure où paraissent les premiers travaux relevant d'une histoire documentaire des Juifs en France, travaux produits par des juifs, mais également par des savants non juifs. Un deuxième temps, recentré sur les affaires judiciaires, et notamment les archives judiciaires relatives à des accusations de crimes rituels au Moyen Âge. Un troisième temps, donc après l'affaire, pour tenter de saisir les effets induits de l'affaire Dreyfus et de tout ce qui s'est passé autour de l'expertise historienne sur l'écriture de l'histoire des Juifs en France. Alors, je débuterai tout d'abord par une confrontation qui est aussi une rencontre entre deux savants. Dans ce premier temps, il faudra regarder du côté de la décennie qui a précédé l'affaire, à savoir donc les années, on va dire les années 1880, on peut même remonter jusqu'au milieu des années 1870, décennie durant laquelle apparaissent les premiers travaux, comme je l'ai dit, scientifiques sur l'histoire des Juifs en France, adossés à une étude critique des sources narratives et archivistiques. Dans ce contexte, deux figures nous serviront de guide. L'une, Siméon Luce, est celle d'un chartiste d'origine normande, spécialiste de la guerre de Cent Ans, et qui publia quelques études sur les Juifs en France au XIVe et XVe siècle, c'est la période de prédilection, à la fois dans la revue historique, la revue de Monod, et dans la revue des études juives. L'autre, Isidore Loeb, rabbin de formation, qui en 1880 devient la cheville ouvrière de cette revue des études juives que je vous ai évoquée, revue dans laquelle il s'attacha, par ses propres travaux de recherche et aussi par un travail véritable d'émulation d'une petite communauté d'historiens, promouvoir le champ émergent, on va dire, de l'histoire des Juifs en France. Avec la particularité, vous l'aurez noté à travers les dates de décès de ces deux personnes, que ces deux figures sont décédées donc juste avant l'affaire, en 1892, la même année, ce qui leur épargna d'une certaine manière de prendre position pour ou contre Dreyfus et Zola pendant l'affaire. Luce, tout d'abord, j'en dirai quelques mots, donc spécialiste, je vous ai dit, de la guerre de Cent Ans, et plus spécifiquement encore de Froissart, dont il édita en 1878 les chroniques, et également, ça a été un des grands auteurs, grand historien de Jeanne d'Arc. Siméon Luce, qui a fait l'essentiel de sa carrière aux Archives nationales avant d'occuper, de 1882 à 1892, donc la chaire d'études critiques des sources de l'histoire de France à l'École des Chartes. En 1878, donc, Siméon Luce publie, comme je vous le disais, dans la revue historique de Monod, un article intitulé « Les Juifs sous Charles V et le fonds hébraïque du trésor des Chartes » en 1372. Article dans lequel il dresse un portrait plutôt favorable de l'attitude dite tolérante, je cite Luce, de Charles V, donc Charles le Sage, vis-à-vis de la minorité juive du royaume, minorité que Charles V avait fait rentrer moyennant des sommes exorbitantes, mais que Siméon Luce taxe de modéré, dans le royaume de France en 1361. Le même Siméon Luce publie trois ans plus tard, en 1881, dans la toute jeune revue des études juives, un catalogue, comme vous voyez, un catalogue des documents du trésor des Chartes relatifs aux juifs sous le règne de Philippe le Bel, qui constitue l'un des tout premiers et longtemps l'un des seuls inventaires des actes relatifs aux Juifs conservés dans ce qui fait figure alors, le trésor des Chartes, le saint des saints des archives nationales. À l'image positive de Charles V, Charles le Sage, donc dans l'article de 1878, fait contraste la figure maudite de Philippe le Bel dans l'article de 1881, ou plutôt de ses conseillers, Guillaume de Nogaret et Guillaume de Plaisian, grand organisateur de la confiscation des biens des Juifs du sud-ouest de la France lors de l'exposition de 1306. Ces travaux, sous couvert de produire une image objective et authentique de l'histoire des Juifs au Moyen-Âge, mettent surtout en scène, en réalité, les traces qu'en a gardées le pouvoir royal. Surtout, elles tendent à montrer l'intérêt à puiser dans les archives les éléments permettant de nuancer l'image exclusivement négative laissée par les chroniques royales et les recueils d'ordonnances, jusque-là exploitées quasi exclusivement par les historiens des Juifs. À travers les registres de la chancellerie royale, exploités par Siméon Luce, ce dernier lit ce qu'il croit être une autre réalité, davantage en prise avec la réalité économique et sociale des Juifs dans le pays, puisque ces registres gardent la trace des ventes des biens opérées sous le contrôle des agents royaux, donc au moment de l'expulsion du début du XIVe siècle. Plus largement, cette défense et illustration de la valeur probatoire des pièces d'archives prend chez Siméon Luce là aussi une valeur tout à fait particulière, comme prolongement de la pensée de Frédéric Leplay, donc sociologue catholique, de la sociologue plutôt donc de tendance conservatrice, donc sous le Second Empire, théoricien de la droite conservatrice, et qui, dans son maître ouvrage de 1864 intitulé « La réforme sociale en France », fait l'éloge de l'école des Chartes. Le Pleyce soutenant dans cet ouvrage que, dans ce qu'il appelle les trésors de la science sociale, à savoir les archives, il n'y trouve, je le cite, « aucune trace de cette oppression permanente qui, d'après une opinion fort commune, aurait été le trait caractéristique de notre ancien régime. » Cette façon d'assigner aux archives un pouvoir de révélation d'une histoire non pas antagonique, mais au contraire réconciliatrice des Français avec leurs institutions de l'ancienne France, c'est précisément ce à quoi les historiens des Juifs de France se refusent, à l'heure où ceux-ci commencent à se plonger dans ces archives médiévales et modernes. Ainsi de Leub, donc, qui, en 1890, publie un petit opuscule intitulé « Le Juif de l'Histoire et le Juif de la Légende », qui est en fait la publication écrite d'une série de communications qu'il a fait devant la Société des études juives. Donc, ouvrage dans lequel il adopte une attitude critique tout à fait extrêmement radicale à propos des écrits officiels, des archives et des sources narratives, chroniques, mémoires, parlant des Juifs. Parlant même à propos de ces dernières, de falsification colossale de l'histoire. Rien de moins. On saisit ici tout ce qui oppose Isidore Leub à Simon Luce, qui en 1978 avait publié, donc je l'ai dit, les chroniques de Froissart, amorçant ainsi le retour en grâce des chroniques comme source fiable de l'histoire, à l'encontre de ce que ses collègues historiens et archivistes, notamment les épigones de Gabriel Monod, avaient tendance à identifier derrière des chroniques sujettes à mentir sur l'histoire. Luce, au contraire, soutient que ces chroniques permettent l'accès à ce qu'il appelle le grand miroir social. Opposition donc, plus précis, frottement théorique entre d'un côté Isidore Leub, de l'autre Simon Luce, qui n'a toutefois pas empêché les contacts entre les deux hommes, et même, je dirais, bien au contraire. Alors, pour preuve, le fait que le catalogue des documents du Trésor des Chartes est une publication de la Revue des études juives, et vraisemblablement à l'initiative d'Isidore Leub, qu'il a commandé à Simon Luce. Également, un document assez intéressant que j'ai retrouvé donc aux Archives nationales, qui est en fait le registre de lecteurs d'Isidore Leub, donc son registre d'inscription et des commandes qu'il a pu passer aux Archives nationales. Et vous le voyez, en fait, vous avez la demande d'Isidore Leub sur la colonne de droite, et colonne de gauche, en fait, vous avez les réponses des archivistes aux questions posées par Isidore Leub, qui en fait demande... Voilà, tout simplement, demande communication des documents relatifs à l'histoire des Juifs en France. Tout simplement. Ce qui entraîne la rédaction par un archiviste donc, de toute une série de cotes. Et en fait, cet archiviste n'est autre que Siméon Luce. Donc, il y a eu des contacts. Alors, il m'est impossible de savoir s'ils se sont véritablement rencontrés, mais en tout cas, il y a eu des contacts, on va dire, ne serait-ce qu'indirects, à travers ce registre des archives nationales. Quant à Israël Lévy, qui est disciple et successeur d'Isidore Leub à la chaire d'histoire juive du séminaire rabbinique, et qui sera, après la mort donc, d'Isidore Leub en 1992, le successeur donc, à la revue d'études juives d'Isidore Leub, Israël Lévy se fait encore plus précis, d'une certaine manière, dans son attaque contre ce qu'il nomme les documents officiels pour restituer une image authentique, véritable, de l'histoire juive. Je vous ai placé ici une citation d'Israël Lévy, qui date de 1893, donc on est juste avant l'affaire Dreyfus, et qui plante le décor d'une certaine manière. Vous voyez, les histoires écrites uniquement d'après les documents officiels sont le plus souvent des trompe-l'œil, car elles risquent de ne présenter qu'un côté de la vie et non le plus intéressant. Il faut qu'elles ne négligent pas les autres sources d'information si elles veulent être complètes et fidèles. L'histoire juive, en particulier, telle qu'on est en train de la constituer avec les données empruntées aux archives, a bien des chances de rester stérile ou de répandre des idées fausses si elle ne profite pas des secours que peuvent lui prêter les écrits juifs. Outre qu'elle est nécessairement partiale, puisqu'elle n'écoute que des voix généralement hostiles à ceux qu'elle étudie, elle les voit sous un jour qui modifierait sûrement la connaissance des manifestations directes, diverses, de leur activité. Alors, on peut se poser cette question, d'où vient cette méfiance radicale vis-à-vis des archives hein, que présente ici Israël Lévy à l'occasion en fait, d'un compte-rendu d'un ouvrage paru en 1892 sur les Juifs de Candie. Vraisemblablement, cette méfiance vient de la construction même de ce qu'on a appelé la science du judaïsme, mouvement impulsé en Allemagne dès la fin des années 1810 et dont la grande œuvre a été, tout au long du XIXe siècle, la réhabilitation de la littérature qu'on pourrait qualifier donc littérature talmudique, rabbinique, et plus largement ce que le pionnier de la science du judaïsme, Leopold Zuntz, qualifiait de littérature néo-hébraïque, donc incluant aussi les écrits philosophiques médiévaux. Donc c'est tout ce travail de réhabilitation de cette littérature, jusque-là violemment discréditée, comme source historique fiable, digne d'être interprétée selon les règles de la méthode philologique. On se trouve ainsi chez Israël Lévy face à ce qu'on pourrait nommer le rêve impossible d'une histoire à part égale. Hein, c'est une très belle formule que j'emprunte ici à un ouvrage récent, hein, de 2011, de l'historien moderniste Romain Bertrand. Mais aussi, dans un contexte où la référence aux archives est exploitée par des auteurs notoirement antisémites, qui trouvent ici, par la référence aux archives, le moyen de fortifier leur thèse, contestant tantôt l'ancienneté de la présence juive en France, tantôt leur tendance atavique au complot. Ces deux traits se retrouvent notamment sous la plume d'un auteur que vous connaissez très certainement, Édouard Drumont, qui, dans sa France juive de 1886, cite nommément une pièce de 1321 tirée du Trésor des Chartes, et plus spécifiquement une layette du Trésor des Chartes, qui est la layette juive du Trésor des Chartes, cote J427, pour les personnes intéressées. Donc, cette pièce, donc, qui est à l'encontre d'une tradition érudite qui remonte au XVIIe siècle, en fait, Drumont considère comme fiable. Ailleurs, le même, Édouard Drumont, pointe l'absence des Juifs des registres paroissiaux pour asseoir son argument, qui sera d'ailleurs repris par Ferdinand Brunetière pendant l'affaire, hein, notamment début 1898, et encore après, évidemment, par Maurras, donc des Juifs comme étant les derniers venus dans la nation France. Accusation qui entraînera du reste, donc en 1890, un démenti de la part de l'érudit bordelais Léon Cardozo de Bettencourt. Ce dernier, qui donc fait paraître une série d'articles entre 1890 et 1893 dans la Revue des études juives, exhibe au contraire l'existence de registres de circoncision de familles juives bordelaises remontant au tout début du XVIIIe siècle comme preuve tangible de cette présence dans les registres paroissiaux, alors pas véritablement les registres paroissiaux, mais en tout cas dans les registres d'état civil, donc de ces juifs en France. Deuxième temps, beaucoup plus rapide, hein, puisque l'heure tourne, je m'attarderai maintenant sur ce qui concerne plus spécifiquement les archives judiciaires, et de cette subtile différence d'appréciation installée au cœur même, cette fois-ci, du camp de Réfusard, donc entre historiens des Juifs en France et historiens de la France, hein, qui, au printemps 1998, positionneront en faveur de Dreyfus et seront appelés comme témoins au procès Zola. Je ferai ici référence principalement à une publication de 1883, donc avant l'affaire, mais d'un auteur qui sera un des experts au procès Zola, Auguste Molinier. Donc cette publication, c'est un opuscule relativement bref, donc intitulé, alors je n'ai que la photographie, je suis désolé du microfilm, hein, parce que je n'ai pas pu avoir accès à l'original à la Bibliothèque nationale, opuscule qui s'intitule donc « Enquête sur un meurtre imputé au juge de Valréas », publié donc par Auguste Molinier en 1883. Publication donc qui renvoie à un événement du milieu du XIIIe siècle, en 1247, mais qui en fait a été soufflé à Auguste Molinier en écho direct d'une affaire contemporaine de 1883, qui est une affaire d'accusation de crime rituel qui se déroule en Autriche-Hongrie, dans une petite commune de Tisza-Eslar, donc et qui une accusation de crime rituel et donc qui mobilise donc Auguste Molinier pour produire cette enquête sur une accusation de crimes rituels, donc datant de, voilà, du siècle de Saint-Louis. Auguste Molinier, donc, qui est ce chartiste aussi, qui prendra d'ailleurs la suite de Siméon Luce à l'école des chartes, à la chaire d'études critiques des sources de l'histoire de France, hein, et qui donc sera appelé par Zola et Laborie, hein, surtout, pour intervenir au moment, donc, au procès Zola, hein, comme expert archiviste paléographe. Et évidemment, là, les derniers travaux, notamment de Laurent Ferry, l'ont montré, parce que cet Auguste Molinier, également protestant comme Monod d'ailleurs, avait publié cet opuscule en 1883. Donc le lien finalement entre cet opuscule et l'affaire est direct, hein, puisque c'est cet engagement précédant l'affaire qui va conduire Molinier à être sélectionné pour expertiser le bordereau en 1898, avec d'autres archivistes que vous connaissez bien, Arthur Giry et Paul Meyer notamment. Donc, Auguste Molinier, qui dans ce petit opuscule, donc sur l'affaire de Valréa de 1247, affirmait que les deux frères mineurs qui avaient mené en 1247 une enquête judiciaire sur les juifs de Valréa, sans mandat judiciaire, avaient moins défiguré ou falsifié des faits réels, à savoir la mort d'un enfant chrétien, qu'ils n'en avaient attribué la responsabilité aux juifs de Valréa. Isidore Loeb, dans une étude portant sur un cas proche d'accusation donc de meurtre par un enfant chrétien à La Guardia en Espagne, donc à la fin du XVe siècle, dans cette publication qui date de 1887, Isidore Loeb qui en fait se démarque du schéma explicatif proposé par Molinier, en soutenant que le meurtre lui-même, alors c'est une autre affaire, hein, mais finalement il réfléchit sur les mêmes mécanismes, hein, le meurtre lui-même pour Isidore Loeb aurait été une pure invention. Alors, si l'étude d'Isidore Loeb donc, paraît en 1887, donc on est avant l'affaire, une autre étude relative à une accusation de crime rituel, cette fois-ci à Waldkirch en Brisgau, donc en Allemagne, en 1503, fut publiée du temps de l'affaire, en 1902, par un autre des disciples d'Isidore Loeb, Paul Hildenfinger. Donc, et Paul Hildenfinger, tout comme son maître Isidore Loeb, reprend finalement ce schéma, donc à savoir celui d'une pure invention de la légende, hein, donc de la légende du crime rituel, et non pas l'idée défendue notamment par l'archiviste historien Auguste Molinier de faits réels mais falsifiés ou déformés. Alors, sur cette subtile différence, on peut aussi rappeler Joseph Renac et notamment son travail mené sur une autre accusation de crime rituel, cette fois-ci en plein cœur du XVIIe siècle, hein, sous Louis XIV, le travail donc que Joseph Renac avait mené sur Raphaël Lévy de Boulay, donc juif lorrain, accusé de crime rituel d'un enfant chrétien en 1670, et donc qui sera exécuté. Et Joseph Renac donc publie cet ouvrage intitulé donc, vous voyez, Une erreur judiciaire sous Louis XIV, Raphaël Lévy, en 1898, à l'été 1898, et donc là on est en plein cœur de l'affaire, hein, et là les résonances sont évidemment tout à fait évidentes. Ce qui est intéressant, c'est que, alors Joseph Renac, il l'avait bien souligné, effectivement, n'est pas un homme d'archives, son travail c'est un travail en bibliothèque, hein, et d'ailleurs même plus précisément ici à la fois les bibliothèques parlementaires, hein, vous savez, député, mais aussi Bibliothèque nationale, hein, il y a des références à des cotes de la Bibliothèque nationale, sur toute une littérature autour donc, de cette affaire donc, d'accusation de crime rituel de la fin du deuxième tiers, on va dire, du XVIIe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est que Joseph Renac, lui, a une lecture très politique cette accusation de crime rituel, puisque ce qui l'intéresse et ce qu'il met beaucoup en avant dans cet opuscule, c'est la mise en œuvre de la machine judiciaire, donc pour amener, alors non pas à sauver Raphaël Lévy, puisqu'il sera exécuté, mais pour le réhabiliter, puisque Raphaël Lévy sera réhabilité, et surtout la communauté juive de Metz, qui était menacée d'expulsion suite à cette accusation, eh bien, sera finalement dédouanée de toutes les accusations. Et c'est véritablement ce mécanisme politique, hein, on va dire, que Raphaël Lévy met ici en scène, hein, sur lequel il insiste, également sur une figure qui est la figure d'un oratorien, Richard Simon, qui, et Joseph Reynac y assiste beaucoup, n'aimait pas les Juifs, hein, mais les défend par souci de la vérité. Et on est dans cette rhétorique dreyfusarde d'une certaine manière, enfin voilà, est différente aussi de la lecture que des historiens des Juifs de France à la même époque peuvent avoir de ces accusations de crimes rituels. Alors, donc si Reynac établit, lui, donc un lien explicite avec l'affaire, d'autres auteurs qui tissent également des liens, des ponts plus indirects avec l'affaire Dreyfus, hein, qui se tient au même moment, en tentant d'ouvrir le questionnaire des archives, donc à d'autres archives que celles documentant précisément la persécution. Ce sera mon dernier point. Cette inflexion donc, dans les écrits sur les Juifs de France peut se lire ainsi dans la recherche et la mise en œuvre de ce qu'un historien italien récent a pu appeler la coexistence pacifique entre juifs et chrétiens. C'est une formule tout à fait intéressante puisque c'est un courant historiographique qui fait d'une certaine manière pendant aussi à cette tendance historiographique qu'on voit beaucoup chez les historiens des juifs de France au moment de l'affaire Dreyfus, qui est une tendance à insister au contraire beaucoup sur les persécutions. Dans les mêmes années, on va dire même plutôt dans la deuxième phase de l'affaire, à partir des années 1900-1903, eh bien, on a aussi des travaux qui commencent à émerger pour essayer donc de décrire une autre histoire des Juifs et des relations entre Juifs et chrétiens, et cela à partir d'autres archives. Alors c'est là qu'on retrouve le même Paul Hildenfinger, donc, que j'ai déjà évoqué, chartiste lui aussi, j'ai pu notamment découvrir dans sa correspondance familiale qu'il a laissée et qui se trouve aujourd'hui aux archives du Consistoire central à Paris, les traces concrètes de l'affaire dans son engagement dans l'écriture de l'histoire des Juifs en France. En effet, Paul Hildenfinger avait commencé sa carrière d'historien sur un sujet différent de celui de l'histoire des Juifs en France, puisqu'il était d'abord spécialiste des léproseries, des lépreux. Et puis, en fait, à la faveur de l'affaire, hein, il est passé à l'histoire des Juifs en France et a commencé à publier dans la revue des études juives. Et alors, cette correspondance est tout à fait intéressante parce qu'on le voit, en fait, il raconte à ses parents qui sont de Reims, hein, lui est à Paris, il est employé à la Bibliothèque nationale, et il raconte un petit peu son itinéraire dans Paris, donc l'itinéraire d'un jeune provincial dans le Paris savant, et notamment dans le Paris, dans le tout petit milieu, finalement, des études juives, où il rencontre Israël Lévy, que j'ai mentionné, qui est lui-même à ce moment-là le grand rabbin de Paris, et aussi toute la, voilà, le petit milieu des historiens pour un grand nombre de formations rabbiniques qui s'investissent dans l'écriture de l'histoire des Juifs en France. Et avec Israël Lévy, il évoque, et notamment ça c'est une citation hein, que je vous restitue, hein, donc il parle de l'affaire Dreyfus et les autres affaires Dreyfus passées. Hein. Et là on voit bien le lien hein, qui se fait de façon transparente entre l'affaire Dreyfus, la véritable, hein, et celle, donc, et notamment il pense aux accusations de crimes rituels, hein, donc, qui sont lues comme des prodromes hein, de l'affaire Dreyfus à l'époque médiévale et moderne. Alors, comme je disais, c'est une correspondance très intéressante aussi, parce que là, ceci, c'est un signe un petit peu de la, comment dire, de ce caractère encore très marginal et qui est resté, on va dire, presque quasiment jusqu'à aujourd'hui, de ce milieu des historiens des Juifs en France, puisqu'ils sont peu, il faut le dire, puisque Hildenfinger parle même de la revue des études juives à un moment donné comme la revue des Youpa. Voilà, ce qui, dans sa bouche, peut évidemment enfin, sonner de façon étrange, mais qui est plus une manière de montrer comment, finalement, ce milieu reste très marginal à l'époque par rapport au milieu des historiens de France. De même, je vais peut-être passer ici. Donc, à l'intérieur d'une trame tissée par le récitatif donc, des persécutions médiévales, on décerne chez cet auteur, ainsi que chez quelques autres, le souci d'aller puiser donc, d'autres archives, les ferments d'une autre histoire, comme je l'ai dit. Et ici, sont particulièrement mises en valeur les archives notariales. Les archives notariales des villes du Midi de la France. C'est notamment le cas dans une étude que publie donc Paul Hildenfinger entre 1900 et 1903, hein, une série d'articles sur des documents relatifs aux Juifs d'Arles à l'époque, toute fin du Moyen-Âge, étude qui est menée à partir des documents tirés des archives notariales. Alors pourquoi les archives notariales amènent à une autre lecture de l'histoire des relations entre Juifs et chrétiens? Parce qu'à travers les registres de notaires, c'est une dimension contractuelle qui est mise en scène, hein, c'est des contrats passés entre juifs et chrétiens, et notamment sur des objets commerciaux. Donc c'était à la fois une manière de montrer finalement une quotidienneté dans les relations entre juifs et chrétiens, et puis aussi de montrer, de déconstruire le stéréotype des juifs comme manieurs d'argent, hein, et donc c'est aussi de montrer comment cette relation économique entre juifs et chrétiens est tout à fait fondamentale au Moyen-Âge. Dernier aspect, alors moins développé par Paul Hildenfinger que par d'autres auteurs qui écrivent à partir des archives notariales, donc dans ces années 1900-1903, c'est aussi la dimension de citoyenneté. Et notamment un auteur qui s'appelle Adolphe Crémieux, donc c'est l'homonyme de l'homme politique qui fut ministre de la Justice sous la Deuxième et Troisième République. Donc cet auteur, donc Adolphe Crémieux, qui est professeur d'histoire au lycée de Toulon au début du XXe siècle, publie des études sur les Juifs de Marseille au Moyen-Âge, donc dans ces années de l'affaire, hein, fin de l'affaire, dans lequel donc il insiste sur le fait que ces archives, ces registres notariaux, qualifient les acteurs juifs, sont tantôt qualifiés de Judéi, tantôt ne le sont pas, et donc pour lui c'est le signe d'une intégration d'une certaine manière, hein, et aussi d'un accès à la citoyenneté qui en partie correspond en partie à la réalité, hein, dans ces villes du midi de la France, fin du Moyen-Âge, donc de ces juifs, hein, et c'est là aussi un écho à l'affaire Dreyfus, hein, et donc à cette question de ce qui est un des axes principaux du franco-judaïsme, hein, donc de cette doctrine de l'assimilation des juifs à la France et plus spécifiquement à la République, à savoir cette citoyenneté, ce patriotisme, hein, donc présent dès le Moyen Âge. Alors il me reste, je pense, peu de temps. Voilà. Je prendrai quelques minutes maintenant pour la conclusion, pour essayer de réfléchir finalement à cette histoire des Juifs en France après l'affaire. Est-elle devenue une histoire dreyfusarde ou pas? Alors, Perrine Simon-Naoum, historienne qui a beaucoup travaillé sur sur justement des parcours d'intellectuels juifs en France au XIXe siècle, à partir des années 1830 et jusqu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, a montré comment l'affaire Dreyfus avait provoqué de façon paradoxale un déclin de la science du judaïsme à la française. Alors, je ne rentrerai pas forcément dans le détail de sa démonstration qui est relativement complexe, hein, mais ce que Perrine Simon-Naoum analyse, c'est qu'en tournant le dos à la littérature au profit de l'histoire, la science républicaine donc met en place un modèle d'une science engagée dans la cité et fondée sur un rationalisme et une morale absolue. Et ces années sont aussi, vous le savez, les années où émerge la sociologie durkheimienne, hein, donc Émile Durkheim commence à prendre place dans l'université, hein. Cette sociologie donc conteste l'approche de la religion, parce que vous le savez, c'est un des objets d'étude des durkheimiens, hein, donc la religion, approche de la religion qui était celle justement sur laquelle s'était fondée la science du judaïsme à la française, conception qui combinait tradition et modernité. Et à ce titre, l'ouvrage un petit peu clé de cette doctrine donc de la science du judaïsme française et plus précisément du franco-judaïsme, c'est un ouvrage de James Darmstetter, donc grand savant, qui donc professeur à l'école pratique des hautes études et qui publie en 1898 donc les prophètes d'Israël, et donc qui est donc une relecture, hein, de l'histoire des juifs, alors pas forcément de l'histoire des juifs en France, hein, mais de l'histoire des juifs donc à l'aune de leur vocation prophétique depuis l'époque biblique, hein. Et cette vision qui justement essaye d'allier tradition juive liée au texte, hein, au texte fondateur, et modernité, donc d'un accommodement à la République et même aux valeurs de la République, c'est cette vision qui est remise en cause d'une certaine manière donc au tout début du XXe siècle à travers les travaux des durkheimiens. Alors de mon côté, m'intéressant plus spécifiquement au métier d'historien, de façon très pragmatique, hein, comme vous l'avez remarqué, le constat d'une chute des vocations des historiens des Juifs en France après l'affaire est effectivement assez frappant, même si il ne faut pas surestimer l'importance de ces historiens des Juifs en France avant l'affaire, hein, comme j'ai essayé de vous le démontrer. Pour autant, sur la question spécifique de la rhétorique de la preuve, au cœur de l'affaire, hein, comme on le sait, il y a un témoignage intéressant que j'aimerais livrer, hein, ce sera en conclusion, venant de celui qui fut l'un des principaux représentants de cette histoire des Juifs en France dans l'entre-deux-guerres, à savoir Robert Henchel. Robert Henchel, qui lui est de la génération postérieure à Paul Hildenfinger, a un point commun avec ce dernier, puisque tout comme Paul Hildenfinger, il était chartiste. Il y a très peu de chartistes juifs à la fin du 19e siècle et même avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, et donc il fait partie de ces très rares chartistes juifs, qui plus est encore plus rares ceux qui vont s'intéresser à l'histoire des Juifs. Alors 40 ans après la fin de l'affaire, Robert Henchel publie un ouvrage, Les Juifs de France, en 1946, qui, d'une certaine manière, son testament, dans lequel il livre ses réflexions d'historien sur les sources de l'histoire des Juifs en France. Témoignage qui mériterait d'être confronté à celui de ses lointains prédécesseurs, Israël Lévy ou encore Isidore Loeb, cité précédemment. Là où Israël Lévy contestait aux documents officiels toute valeur heuristique pour saisir le tréfonds de l'histoire juive, Robert Henchel se montre plus nuancé quant à la valeur de ses témoignages. Ce sera le dernier texte que je vous livrerai ici, donc un extrait de l'introduction en fait de cet ouvrage donc paru en 1946, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur le chapitre des Juifs, la thèse hostile est si ancienne qu'il faut un grand effort sur soi-même pour rejeter d'innombrables témoignages et récits qui n'ont guère été que les échos les uns des autres à travers les siècles et qui sont sans valeur décisive. Il y a quelques mérites à discerner dans le concert unanime des voix qui ont sans cesse le même refrain, l'indice rare, la parole exceptionnelle qui, par hasard, a pu jeter une note discordante. C'est ici que l'adage « testis unus, testis nullus » se révèle faux. Un seul témoignage favorable aux Juifs doit peser autant dans la balance que la masse uniforme des affirmations malveillantes par la seule considération qu'il n'est pas une répétition et indépendamment de tous les autres motifs qu'il y aurait de lui attribuer du poids. Texte tout à fait étonnant, je dirais d'autant plus étonnant qu'elle vient d'un chartiste, hein, donc d'un historien qui est... qui a été formé à l'étude des documents d'archives et qui est censé être un des maîtres de la rigueur historique quant à l'exploitation de ces documents d'archives. Cette règle de droit, donc testis unus, testis nullus, hein, transposée à la méthode historique, voudrait que pour prouver l'authenticité d'un fait passé, il conviendrait de citer deux témoignages émanant de deux sources d'informations distinctes. Robert Henchel, ici, dans cet extrait, soutient, au contraire, que pour les Juifs, eh bien, un témoignage unique favorable aux Juifs en vaut deux, d'une certaine manière. Il vaut comme sûr, même s'il n'a pas pu être corroboré par un autre. C'était rappelé, d'une certaine manière, que l'histoire des Juifs était une histoire engagée dans le présent, et ici, on peut voir un effet positif de l'affaire, une sorte de cette histoire engagée dans la cité, qui est une des marques de fabrique de l'affaire Dreyfus, hein, cette matrice dreyfusarde du rôle de l'historien. Mais c'est aussi montrer la fragilité du statut de la preuve dans le contexte de l'histoire des Juifs, ce qui était, il me semble, aussi une forme de désaveu par rapport à la victoire finale de l'affaire Dreyfus, la réhabilitation du capitaine, notamment par l'enquête, la grande enquête par la Cour de cassation, qui aboutit donc à sa réhabilitation en 1906, et donc qui fait triompher la preuve. C'est aussi un rappel, d'une certaine manière, on est en 1946, du poids écrasant des préjugés hostiles aux Juifs, empêchant l'écriture sereine de leur histoire à partir de ce qui est ces archives, le patrimoine écrit de la nation. Voilà, je vous remercie.
Bon, merci beaucoup pour cet exposé qui s'adresse à nous littéraires et finalement qui nous montre ce que peut être la méthode de l'histoire. Alors la méthode la plus rigoureuse qui soit, parce que vous êtes historien, mais historien des archives et historien des sources, comme vous le dites, vous êtes fasciné par les bas de page, hein, par les notes de bas de page, et c'est cela que vous nous montrez, je crois d'une façon tout à fait passionnante, hein, En tournant autour de l'affaire Dreyfus,
Voilà,
c'est ce qui a été votre exposé d'aujourd'hui. Peut-être qu'on va revenir là-dessus et on aura sans doute beaucoup de questions à vous poser, puisque vous montrez qu'il y a à ce moment-là, évidemment, toute une conscience de la part d'historiens du judaïsme sur, au fond, même d'anciennes affaires Dreyfus, hein, qu'on pourrait analyser à la lumière de cette affaire qui se déroule, et que ces historiens seront présents plus ou moins dans le combat de l'affaire Dreyfus avec quelqu'un que vous n'analysez pas apparemment comme un historien, qui est Joseph Reinach, que vous qualifiez de publiciste et qui est pourtant le grand auteur de l'histoire de l'affaire Dreyfus au début du XXe siècle. Donc voilà toutes les questions qui surgissent enfin, dans mon esprit, rapidement, en vous écoutant. Vous avez aussi évoqué le nom de Bernard Lazare et puis vous avez commencé en évoquant le nom des historiens d'aujourd'hui, de ceux qui s'intéresse à l'affaire Dreyfus, le nom de Bertrand Joly, auteur d'un dictionnaire du nationalisme et d'une histoire politique de l'affaire Dreyfus, de Vincent Duclerc, qui est l'auteur de cette grande biographie du capitaine Dreyfus, et vous avez aussi rapidement évoqué le nom de Philippe Auriol, qui a publié, vous le savez, tous, enfin je le rappelle à tout le monde, en 2014, c'est tout récent, une sorte de Bible sur l'affaire Dreyfus, oui, on peut le dire. Hein. C'est un grand ouvrage qui a été publié aux Belles Lettres, en deux tomes, et qui aujourd'hui n'ont pas remplacé l'ouvrage de Reinach, parce que cet ouvrage reste inoubliable et unique, mais véritablement fait l'histoire de l'affaire. Et l'a fait d'une façon, évidemment, qui vous a sans doute intéressé, et elle a fait cette histoire jusqu'à nos jours. Hein, ce que dit le titre que Philippe Auriol a choisi sur la couverture de son ouvrage, c'est une affaire jusqu'à nos jours. Elle est toujours là, elle est toujours présente. Il faut bien sûr reprendre une affaire que, d'une certaine façon, Reinach avait écrite, enfin une histoire qu'il avait écrite alors qu'elle n'était pas terminée, puisque son livre paraît avant 1906. Philippe Auriol, évidemment, va jusqu'au bout, peut-être même jusqu'en 1908, la panthéonisation de Zola, mais il va jusqu'à aujourd'hui. Voilà, voilà toutes les questions qui se présentent et que peut-être on aura l'occasion d'aborder avec vous dans ce débat qui s'ouvre. Mais je donne la parole à la salle, à tous ceux qui vous ont écouté avec passion, avec une sorte de respect, au fond, hein, pour cette connaissance que vous avez des côtes les plus secrètes des archives.
Théoriquement, elles ne sont plus secrètes.
Voilà, voilà, c'est ça, c'est vraiment extraordinaire. La côte LB, j'ai noté ça, LB. Cette côte qui fait que les ouvrages sur l'affaire Dreyfus sont là présents. Oui, alors.